régulièrement cette expression. La politique de l'Europe quant à l'immigration a-t-elle marqué un tournant cette semaine avec l'annonce du désir des 28 pays de renforcer la politique de retour des migrants économiques? C'était ça à la une un peu cette semaine. Le Brexit marquait un autre tournant pour l'Europe, on suppose, n'est-ce pas? La victoire à la Coupe du Monde pour la Belgique marquera également un tournant pour le foot belge. Petite parenthèse, bravo les Belges, vous nous avez écrasés il y a quelques jours, mais attendons la finale. À vrai dire, chers amis, nous sommes assez susceptibles, je pense, hein, à ce genre de discours. Ah, ça marque un tournant, vous savez. Car nous avons tous envie de trouver notre propre génération comme étant la génération qui compte, celle pendant laquelle de grandes choses ont lieu. Ça nous met un peu en avant par rapport à d'autres générations, n'est-ce pas? Mais avec du recul, ce n'est pas toujours le cas que le soi-disant tournant portait autant de signification que cela, pour finir. Avec le passage de temps, nous pouvons tracer une évolution qui démontre qu'il n'y avait pas de tournant dramatique après tout, et que c'est bien d'autres événements qui ont eu lieu sans qu'ils fissent la une dans les médias, qui sont responsables pour les plus grands changements de notre époque. Samuel Fufari, qui sera, pour votre information, de retour à l'Église après quelques semaines où il était absent suite à sa retraite et ses engagements suite à sa retraite, il est ancien responsable ici dans l'Église, ben lui, il dirait, parce qu'il travaille dans le domaine de l'énergie, que le plus grand changement dans la géopolitique de l'énergie ces 40 dernières années n'est pas l'accent sur les énergies renouvelables, tellement mis en avant dans la politique occidentale, non, c'est plutôt la découverte et l'exploitation du gaz de schiste, comme on dit, ou de roche-mère, qui a bouleversé les choses ces dernières années. Bon, à voir avec lui si vous voulez disputer de cela. Il faut procéder prudemment avant de déclarer un tournant conséquent de notre histoire. Il faut savoir que lorsqu'il est question de Dieu, les plus grands tournants ont déjà eu lieu. Est-ce que vous savez cela? Mais pour certaines branches de l'Église chrétienne, nous avons du mal avec cette réalité. Car les chrétiens aussi ont le désir de vivre à l'époque où Dieu est particulièrement à l'œuvre parmi nous. Nous désirons voir ce qu'on appelle des réveils, ou peut-être des manifestations extraordinaires de l'Esprit de Dieu parmi nous. Et donc, nous cherchons l'activité de Dieu de manière importante maintenant. Aujourd'hui, nous voulons que notre génération compte. Mais pour comprendre l'activité de Dieu aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne vivons pas à l'époque du plus grand tournant point de vue de Dieu. Nous vivons à l'époque où nous proclamons le tournant qui a déjà eu lieu et qui continue aujourd'hui à avoir un impact réel dans la vie des uns et des autres, à savoir la venue de Jésus-Christ dans le monde, sa mort et sa résurrection. C'est en comprenant la portée de ces événements-là, ce tournant-là, que nous pouvons expérimenter la bénédiction et la présence de Dieu aujourd'hui. Et je dis cela au début d'une prédication qui parle d'un texte qui relate des événements qui avaient lieu, grosso modo, 1000 ans avant Jésus-Christ. Bizarre, n'est-ce pas? Potentiellement, on dirait que c'est bizarre. Car aujourd'hui, nous terminons donc cette série dans 1 Samuel, l'histoire de la fin du règne du premier roi d'Israël, Saül. La mort de Saül signifie Et c'est clair, un tournant pour Israël, car cela marque le passage vers le règne du roi selon le cœur de l'Éternel, David. C'est David, lui, qui recevra des promesses de la part de Dieu quant à sa descendance. De lui, de David, viendra le roi qui régnera éternellement, loin de Dieu par excellence. L'histoire de Saül et de David nous renvoie donc, Robin nous a déjà dit ce matin, à ce descendant de David, Jésus. Et donc, lorsque nous terminons avec notre étude de ces deux rois, Saül d'un côté et David d'un autre, nous voyons un avant-goût de ce tournant encore plus conséquent qui était encore à venir à l'époque de Saül et de David, à savoir donc la venue de Jésus lui-même. Donc nous avons lu les deux récits à la fin de 1 Samuel, la bataille de David sur les Amalécites et ensuite la mort de Saül au chapitre 31. Et moi j'aimerais prendre comme notre texte pour ce matin un texte résumé qui se trouve au début de 2 Samuel. Donc c'est à la page si vous êtes dans ce livre, cette Bible de l'Église, c'est à la page 311. Ou bien c'est juste le verset que vous allez... Ah, voilà, on l'a déjà sur l'écran. Je ne savais pas qu'on l'avait mis. Super. Donc, voici ce que dit ce verset sur l'écran. « Or, après la mort de Saül, David, qui avait battu Amalek, s'en retourna à Tsiklag, où il resta 2 jours. Le troisième jour, verset 2, voici qu'un homme arriva du camp de Saül. » Nous allons donc voir 3 choses qui résument la fin de ce livre d'un Samuel, si vous voulez. D'abord, loin de Dieu, meurt. Il s'agit de Saül. Ensuite, loin de Dieu et victorieux. Deuxième élément dans ce verset, il s'agit de David. Et ensuite, 2 jours d'attente avant d'apprendre la nouvelle. Et là, chers amis, je vais proposer qu'il s'agit ultimement de Jésus. Mais voyons ces 3 points ensemble. Donc, d'abord, loin de Dieu, meurt. Donc, après la mort de Saül, ça sert comme un bon titre, d'ailleurs, pour tout le livre de 2 Samuel. La mort de Saül, c'est clair, marque un tournant pour le peuple de Dieu. Car la tentative d'avoir un roi sur Israël, pour ressembler d'autres nations qui entouraient Israël, échoue cette tentative lorsque Saül, l'homme désigné comme loin de Dieu, il meurt. D'ailleurs, nous avons lu comment il a été humilié par les Philistins, qui célèbrent sa mort comme une bonne nouvelle, signe de puissance, le triomphe sur l'ennemi. Saül, répondu, était le roi que Dieu avait donné au peuple, suite à la demande du peuple. On l'appelait au chapitre 12 d'1 Samuel, verset 13, le roi que vous avez choisi, en parlant du peuple, que vous avez demandé. Dieu, à travers le prophète Samuel, les avait avertis du danger d'un roi pour Israël. Mais le peuple avait ignoré son avertissement. Au chapitre 8, on apprend que le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Il y aura un roi sur nous, c'est ça ce qu'il voulait. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et conduira nos guerres. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. » Donc, Saül, c'est le choix du peuple. Et Dieu mettait donc des conditions quant au règne d'un roi sur ce peuple. Au chapitre 12 de 1 Samuel, toujours, il dit au verset 13, « Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici que l'Éternel a mis sur vous un roi. » Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, Si vous écoutez sa voix et si vous n'êtes pas rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous rallierez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Le roi, comme le peuple, devait donc écouter la parole de Dieu. Mais le règne de ce premier roi était catastrophique. Chapitre 13 de 1 Samuel, verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Au chapitre 15, c'est définitif, ce changement de loi de l'Éternel. Dieu, à travers Samuel, dit à Saül, « Ceci, tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Donc maintenant, à la fin d'un Samuel, le roi est mort. Israël n'a plus de roi. La tentative de ressembler à d'autres nations a échoué. Quel avenir donc pour Israël? Elle est comme elle était avant le roi, n'est-ce pas? Sans roi. Pour le peuple qui mettait tant d'espérance dans ce roi, que se passera-t-il? Bon, encore pour la Coupe du Monde, hein? Ne vous inquiétez pas. Une fois que la Belgique est éliminée, on n'aura plus d'illustration de la Coupe du Monde. On ne sait pas. Okay. Pour les amateurs de foot, imaginons, chers amis, je sais que ce ne sera pas le cas, que l'équipe nationale perd contre les Japonais demain. Ce serait, n'est-ce pas, pour la nation, une très grande déception. Car cette équipe belge, c'est ce qu'on appelle la génération en or. On a de grandes attentes, enfin, pour l'équipe nationale. Ce tournoi représente, nous dit-on, la meilleure chance, la dernière chance pour cette génération, pour cette équipe de faire quelque chose de grand. Oui, donc, ça serait une déception, bien sûr, pour le pays. Donc, sur une échelle plus grande, chers amis, au niveau national, pas sportif, Saül était l'espoir de toute une génération. Tout un peuple, le premier roi de leur histoire. Et ça termine mal, très mal. Dans les médias du chapitre 31, nous avons lu, verset 7, « Les hommes d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain virent que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent. Et les Philistins allèrent y habiter. » Donc, que se passera-t-il maintenant? Quel espoir pour ce peuple? Et donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, loin de Dieu, cette question s'est aussi posée 1000 ans donc plus tard. Lorsque le Christ est mort sur une croix romaine, à la merci de ses ennemis à lui. En Luc chapitre 24, vous vous souvenez peut-être de l'histoire de deux hommes qui discutaient avec un troisième. Le troisième, jusque-là, est inconnu. On ne sait pas de qui il s'agit si on est ces deux hommes. Et ils discutaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ils expliquent à cette troisième personne que Jésus était un prophète puissant. Verset 19, « En œuvre et en parole, devant Dieu » et devant tout le peuple. Verset 20, « Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort. Et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Déception. Déception. Car sa mort humiliante, honteuse, sur une croix, a secoué la foi de tous ceux qui croyaient jusque-là en lui. Les disciples de Jésus se sont enfuis aussi lors de la mort de leur maître. Quelle déception pour eux. Certains responsables religieux, lorsque Jésus est mort sur la croix, se sont moqués de Jésus. Lui, il est le Christ, loin de Dieu. Qu'il descende de sa croix afin que nous voyions et nous croyions. Quelle déception de voir ce Christ humilié sur la croix. Saül, donc, n'était pas, pour finir, le vrai roi qui devait venir. Jésus, lui aussi mort, n'avait pas l'air de l'être non plus. Ce qui nous mène à notre deuxième constat du premier verset de 2 Samuel. Car nous lisons là, après la mort de Saül, David qui avait battu Amalek ou des Amalécites. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'en même temps que le récit de 1 Samuel souligne la mort de Saül, il y a aussi intercalé avec ce récit de Saül et sa mort, le récit que nous avons aussi lu du chapitre 30 de la victoire de David sur les Amalécites. Le contraste David-Saül dans les quatre derniers chapitres de 1 Samuel que nous avons parcouru un peu plus vite que les autres chapitres, c'est un contraste très marqué, vous savez. Au même moment que dans le nord du pays, il y avait la bataille entre des Philistins et Israël, avec Saül comme roi, au sud, à peu près 3 jours de marche vers le sud, il y a David qui chassait, lui, des Amalécites. Les Philistins fêtaient leur victoire. On a vu au chapitre 31, n'est-ce pas, verset 9, ils coupèrent la tête de Saül et ils le dépouillèrent de ses armes. Puis ils firent annoncer cette bonne nouvelle par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple, nous dit le texte. Et donc, au même moment qu'au nord, ils célébraient leur évangile, la bonne nouvelle, il y avait une autre victoire au sud, sur les Philistins. Une victoire menée par David et ses hommes. Et l'histoire de David, dans le livre de 1 Samuel, c'est une histoire fort différente que celle de Saül. Nous avons pu remarquer cela. Car David, au lieu d'être le roi selon le cœur du peuple, le choix du peuple, il est le roi selon le choix de Dieu lui-même, selon son cœur, dit la Bible. Cela explique son succès militaire tout au long du livre d'1 Samuel. Contre Goliath, contre les Philistins, contre les Amalécites, contre Saül même, Dieu était avec lui. Comment ce qui se passe donc au sud, à Tsiklag, pourrait-il avoir la moindre relation à cette défaite au nord du pays? Quel est le lien entre ces deux événements? Pourquoi intercaler ces deux événements à la fin du livre d'1 Samuel? J'aimerais suggérer 3 pistes ici. Car d'abord, cela voulait dire que la mort de Saül et la défaite d'Israël, ce n'est pas le dernier mot à propos d'Israël. Non, en même temps, il y avait une victoire ici au sud. Une victoire qui signalait de l'espoir pour l'avenir d'Israël. Car Dieu était avec David. Dieu a parlé à David, lui a promis de la victoire contre les Amalécites. Nous l'avons lu. Deuxièmement, dès maintenant, à partir de 2 Samuel verset 1, l'accent tombe donc sur David, le futur pour l'Israël, l'espoir pour Israël. Oui, il va falloir encore 5 chapitres de 2 Samuel avant que tout Israël reconnaissent David comme leur roi légitime. Mais déjà, dès ce moment de la défaite de Saül et la victoire de David sur les Amalécites, c'est David le futur et ce n'est plus Saül. Troisièmement, est-ce que vous avez remarqué que le peuple que David a vaincu à Ziklag, c'était les Amalécites, j'ai du mal à prononcer. Ce peuple-ci, des Amalécites, s'élevait contre Israël au début dans la Bible, lors de la sortie d'Israël d'Égypte, en Exode, dans le livre d'Exode, au chapitre 15 de 1 Samuel, le Seigneur ordonnait Saül de frapper les Amalécites. Il fallait apporter le jugement de Dieu sur ce peuple, un jugement définitif. Mais au lieu d'obéir à la lettre, la parole de Dieu, Saül faisait ce qui lui semblait bon, en épargnant le meilleur de leur bétail pour le profit de ses hommes. Et c'est cette désobéissance-là, nous avons vu, qui a coûté à Saül son trône. Au moment où Saül est mort, à cause de son échec au sujet des Amalécites, David, quant à lui, le verset 1 de 2 Samuel nous dit, les avait battus. Au chapitre 15, Dieu avait demandé à Saül de frapper les Amalécites. Et c'est ce même mot « frapper » employé ici, quand on traduit par « battu », pour parler de la victoire de David. Il les avait frappés. D'un côté, le peuple d'Israël qui était avec Saül ne voyait que la mort de Saül, l'échec du roi choisi par Dieu. Mais d'un autre côté, trois jours au sud, il y a l'autre loin de Dieu, David, qui lui remporte la victoire. Donc beaucoup au nord n'étaient pas conscients. D'ailleurs, il s'agissait d'une victoire qui renversait, si vous voulez, l'échec de Saül sur les Amalécites. Et donc c'est ainsi, à travers la victoire de David, que le texte nous rend de nouveau, deuxième fois, à Jésus-Christ. Car de même, lorsque Jésus meurt, et beaucoup se trouvent dans le désarroi, hein, la déception, le Nouveau Testament nous dit, qu'une victoire avait lieu. Oui, il y avait déception pour certains, mais réellement en dessous, il y avait victoire. Beaucoup ignoraient cette victoire. Mais toutefois, Colossiens chapitre 2, verset 15 nous le dit, Jésus triomphait sur les ennemis de Dieu, les principautés, les pouvoirs. Il triomphait sur eux par la croix. Jésus, comme David, il est loin de Dieu, le Christ. D'ailleurs, il est le fils de David par excellence, le roi non seulement d'Israël, mais le roi des rois. Et lui aussi renversait l'échec d'un autre représentant de toute l'humanité. Nous sommes nés, chacun d'entre nous, la Bible affirme, en Adam, portant en nous la marque de la désobéissance d'Adam, le péché, qui entraîne la mort et la condamnation de Dieu. Mais en Christ, grâce à Christ, nous bénéficions des bénédictions de Christ, vous le savez. La justice, la vie, selon Romains chapitre 5. En lui, quelques chapitres plus tard, en Romains, nous sommes plus que vainqueurs. En qui? En celui qui nous a aimés, qui a remporté donc la victoire. Il y a donc des similarités, vous voyez ça, entre la mort de Saül et la victoire de David et Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais il y a une grande différence aussi. Car dans 2 Samuel chapitre 1, le verset 1, le roi qui est mort, vous l'avez remarqué, c'est Saül. Et le roi qui donne la victoire, c'est David. Mais lorsqu'on arrive à Jésus, le roi qui meurt et le roi qui remporte la victoire, c'est la même personne. Jésus-Christ. Il remporte la victoire à travers sa mort. Et cela nous mène, chers amis, à notre dernier constat de ce verset 1 de 2 Samuel. Le texte dit que David retourna à Ziklag où il resta 2 jours. Ziklag, c'était la ville des Philistins que Achish, le roi de Gath, avait donnée à David. 3 jours au sud, nous avons dit. Et donc, après la mort de Saül, il y a 2 jours de suspense pour ceux qui se trouvent ici au sud avec David. Car David ne savait pas encore le résultat de cette bataille, hein? Israël-Philistin. Il n'y avait pas de communication immédiate comme il y a aujourd'hui. Il devait attendre que quelqu'un descende pour leur expliquer ce qui s'est passé. 2 jours pendant lesquels, alors, l'ancien roi d'Israël est mort. Mais l'homme désigné à être le roi ne le sait pas encore. 2 jours sans roi, alors, en Israël. Mais David, toutefois, attendait à Ziklag. Et le verset 2 de 2 Samuel, chapitre 1, commence avec le 3e jour. Voici qu'un homme arriva du camp de Saül. Le 3e jour déclenche, vous voyez, la nouvelle qui allait être rapportée à David et à ses hommes. Ensuite, ça déclenche la montée de David de là où il était à Ziklag jusqu'en Juda, en Israël. Et l'émergence par la suite du roi David. Oui, maintenant c'est vrai que c'est un peu de spéculation, chers amis, donc vous devez me faire grâce si je me trompe ici. Mais rappelons-nous de nouveau de ces 2 hommes qui se trouvaient avec un 3e sur le chemin d'Emmaüs en Luc chapitre 24. Le verset 21 nous dit que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Frappant, n'est-ce pas? Et bien sûr, à ce stade, ces 2 hommes ne savent pas à qui ils parlent. Car dans les récits de les morts de Jésus, il y a 2 jours pendant lesquels on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'était au 3e jour que le prochain événement majeur a lieu. Jésus est ressuscité. Au 3e jour, c'est Jésus qui parle avec ces 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. C'est Jésus, le ressuscité, qui délivre Israël de ses péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, nous dit que Jésus est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous connaissez peut-être cette expression, selon les Écritures. Mais si vous savez, il n'y a pas de prophétie de l'Ancien Testament qui précise que ce serait au 3e jour que Jésus serait ressuscité. Même si c'est vrai qu'il y a quelques indices que la résurrection aura lieu. Dieu n'abandonnera pas. Psaume 16, son bien-aimé à la mort, et quelques indices de ce genre. Donc il n'y a pas de prophétie directe qui parle du 3e jour. Mais notre texte de 2 Samuel, verset 1, chapitre 1, verset 1, s'insère dans d'autres textes de ce genre où un événement important avait lieu le 3e jour. Il semble que c'est éventuellement cela qui donne, dans les Écritures, un modèle qui viendra à son comble avec la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est ressuscité, il est déclaré définitivement comme roi, loin de Dieu, le Seigneur lui-même qui règne, qui a vaincu la mort, qui par sa mort a payé le prix pour nos péchés et qui peut donner donc la vie avec Dieu qui dure pour une éternité à tous ceux qui se confie en lui. L'apparente défaite de la croix donne suite à la bonne nouvelle de la victoire de Jésus-Christ. La suite de 2 Samuel, c'est le défi, vous savez, pour Israël d'accepter le règne de David. Mais la suite pour nous, ici rassemblés, lors de ce un seul culte ce dimanche matin, c'est d'abord d'accepter le règne de Jésus-Christ, vous savez. De se positionner, nous, entre ceux qui rejettent le règne de Christ en se moquant de lui. Vous savez, il y a encore des gens, n'est-ce pas, qui se moquent de lui, qui se moquent que nous prenons au sérieux, encore aujourd'hui, la foi chrétienne. On doit se positionner entre ceux qui se moquent de nous, qui prennent la foi chrétienne au sérieux, et ceux qui accueillent le règne de loin de Dieu, de Christ, car ils savent que ce Christ est ressuscité réellement, et donc du coup qu'il règne réellement aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes par rapport au règne de Christ? Où est-ce que vous vous positionnez? 1 Samuel nous appelle, la Bible nous appelle, Jésus-Christ vous appelle à vous positionner en dessous de la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous savez, les grands et les puissants de ce monde, ben, il y a du va-et-vient, il me semble. Rien que des premiers ministres. On pense que celui qui est important aujourd'hui, c'est Charles Michel, mais avant lui, il y avait Elieu Desroupeaux, n'est-ce pas? Avant lui, Yves Le Terme, avant lui, Guy Verhofstadt. Aujourd'hui, en France, c'est Macron, mais c'était Hollande, Sarkozy, Chirac. En Allemagne, c'est Merkel. Pour combien de temps, on ne sait pas. Avant elle, Schröder, Kohl. Aux États-Unis, c'est Trump. Avant lui, c'était Obama. Et ensuite, avant lui, Bush. Il y a du va-et-vient. Les puissants, aujourd'hui, ne le sont pas pour toujours. Ils ne peuvent pas y être. Mais Jésus-Christ est Seigneur encore aujourd'hui, vous savez. Il règne au-dessous de tous les autres. Il est le roi des rois. Ne mettons pas donc notre confiance dans les hommes, chers amis, dans les royaumes de ce monde-ci, mais mettons notre confiance en Jésus-Christ qui règne encore aujourd'hui, qui a donné sa vie pour que nous puissions connaître la vie éternelle. Mais nous devons aussi, en tant que serviteurs de ce roi, pour ceux qui disent « Oui, je me positionne ici, sous la Seigneurie de Jésus-Christ », mais nous devons aussi maintenir l'accent sur le tournant majeur dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Et l'accent majeur tombe sur Jésus, sa mort et sa résurrection. Nous ne devons pas être découragés parce que nous ne voyons pas dans notre Église l'activité de Dieu aussi présente qu'on l'aimerait, par exemple. Nous devons nous réjouir que Dieu est actif par son esprit lorsque la croix et la résurrection de Jésus-Christ sont encore proclamées aujourd'hui. C'est là où Dieu est actif, parce que le grand tournant a déjà eu lieu. Nous proclamons ce tournant-là. Nous ne prétendons pas trouver un autre tournant aussi impressionnant que cela puisse paraître. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on termine avec des paroles que j'ai lues au début de 1 Corinthiens chapitre 2, lorsque j'ai prié. Donc si vous avez ce texte sous les yeux, ça serait peut-être utile, je ne pense pas qu'on l'aura sur l'écran, mais sur la page 1142, nous lisons ceci au chapitre 2 de 1 Corinthiens, et c'est l'apôtre Paul qui écrit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul, à cette époque, il était face à des prédicateurs autour de lui, impressionnants. Il savait, ces prédicateurs, capter l'attention de leur public. Oh, c'était passionnant d'écouter ces personnes. Ils savaient bien parler, ils savaient sans doute employer de l'humour lors de leur prêche. Ils savaient évoquer de l'émotion, raconter des blagues, faire pleurer le public. Et les autres disaient, oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça, c'est ça ce qu'il nous faut. Là, on va entendre Dieu parler aujourd'hui. Vous ne voyez pas ce genre de tentation dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui encore, de vouloir impressionner? Venez, venez dans cette Église-là, vous découvrez vraiment quelque chose qui va bouleverser, qui n'a pas lieu, vous savez, dans d'autres Églises. Mais Paul voulait éviter ce genre de ministère à tout prix, chers amis, à tout prix, pour que son message ne soit pas fondé sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Où est-ce que nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre? Verset 2, « Lorsque nous prêchons Christ crucifié. » Que la marque, chers frères et sœurs, de toute cette série dans 1 Samuel que nous avons entamée depuis un long moment, n'est-ce pas? Que la marque de cette série soit la dépendance, la pression profonde et la proclamation de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Prions ensemble. Quelle joie, Seigneur, de te connaître. Celui qui est mort, mais 3 jours plus tard, qui est ressuscité, en qui nous avons la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort. Quelle connaissance précieuse. Nous te prions, Seigneur, nous t'implorons qu'en tant qu'assemblée, nous puissions être ceux qui se reposent sous la seigneurie de Jésus-Christ. Puissions être ceux qui se positionnent, qui ne se moquent pas de ton oint, le Christ, mais qui sont ses disciples. Donne-nous de le suivre. Et en tant que disciples, nous t'implorons aussi, Seigneur, que nous puissions donc mettre l'accent sur Jésus et non pas sur nous-mêmes. Mettre l'accent sur ta puissance à l'œuvre aujourd'hui par la croix. Et nous te demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen.